Message pour monsieur le chef de cabinet de la délégation interministérielle concernant l'autisme en France de la part de Éric Lucas au nom de l'association d'autistes Alliance Autiste. Bonjour monsieur. Tout d'abord, j'aimerais vous remercier pour vos efforts par rapport à nos tentatives de dialogue. Et ce message vocal me semble nécessaire compte tenu des difficultés croissantes lors de nos communications par courriel. Et il me semble qu'il serait bien plus efficace de communiquer par la voix plutôt que de continuer à s'enfoncer en quelque sorte dans des confusions ou des malentendus ou en tout cas des difficultés dans la communication écrite qui risquent fort de faire tourner en bourrique, excusez-moi pour l'expression, les uns comme les autres. Voilà, ça c'est l'introduction. J'aimerais vous parler donc de ces difficultés, essayer de commencer à les résoudre un petit peu, et vous parler aussi du sujet très important qui explique justement ces difficultés, c'est-à-dire le thème de l'accessibilité pour les personnes autistes handicapées. Et pardonnez-moi de parler tout le temps de la même chose. Mais avant d'aborder ces points plutôt concrets, si vous le voulez bien, j'aimerais commencer par des choses un peu plus abstraites qui me semblent nécessaires, et je vous remercie pour votre patience et vos efforts pour ne pas décrocher, et ça ne devrait pas être trop long. Ce que j'aimerais expliquer, c'est que on parle d'autisme, donc on parle de quelque chose qui est mal compris et qui concerne précisément des difficultés dans la communication. Et surtout, de mon point de vue, on peut considérer que l'autisme est une chose qui est plutôt diamétralement opposée aux choses administratives, soit dit sans vouloir vous offenser. Donc, on est face à une problématique qui nécessite évidemment un dialogue entre deux catégories de personnes humaines, que tout oppose presque, et un dialogue qui est caractérisé, en fin de compte, par des difficultés de communication, ce qui est parfaitement logique en présence d'autisme, comme je vous l'ai déjà écrit plusieurs fois. Tout ça pour dire que si on ne prend pas des mesures, des précautions ou ce genre de choses pour tenter de surmonter les inévitables difficultés, alors évidemment, de toute façon, elles vont se présenter. Et c'est exactement ce qu'on observe. Dans ces difficultés, il y a notamment, comme je l'ai déjà expliqué, il y a notamment les questions de susceptibilité ou d'irritabilité. Bon, là, avec vous, pour l'instant, ça fait pas très longtemps qu'on discute, donc on n'en est pas là, et j'espère que ça viendra jamais, mais c'est toujours une sorte d'épée de Damoclès, comme ça, qui pend au-dessus de nous, et évidemment, quand la personne de l'administration française estime à un moment ou à un autre qu'elle a été au français ou pas respecté, et elle fait ça de manière discrétionnaire, quoi. Évidemment, c'est toujours nous qui perdons, de toute façon. On l'a déjà vu avec une personne qui est partie. Je veux pas dire du mal des gens dans leur dos, d'autant plus que c'était une personne, si on met ce problème de côté, qui était tout à fait valeureuse et très dévouée. Un des autres aspects importants de ces problèmes qui peuvent se produire quand on ne fait pas d'efforts ou de précautions en matière d'accessibilité dans la communication avec les personnes autistes, c'est notamment la question du manque d'attention. Je suis désolé de le dire ça comme ça, parce que forcément, ça implique une sorte de reproche, ou enfin en tout cas de critique, sur le fait que eh bien c'est les personnes de l'administration qui ne font pas suffisamment attention à ce qu'on leur écrit ou à ce qu'on leur dit. Mais justement, si on évite de s'offenser, alors on peut voir ces choses de manière désaffectivée, objective, et autant que possible de manière constructive. Je vais vous donner un exemple un peu plus tard concernant les malentendus les plus récents ou les difficultés de je veux pas dire de compréhension, mais les difficultés de communication qui traînent depuis quelques temps, qui motivent ce message. Mais avant d'en arriver là, j'aimerais dire aussi encore une deuxième et dernière chose abstraite, c'est que compte tenu des difficultés, compte tenu de tout ce que je viens de résumer, Il est évident que si on veut réduire ces difficultés de communication entre l'autistant et le non-autistant, si je puis dire, il est évident qu'il faut pouvoir compter sur les explications qui sont fournies par les personnes autistes. Des explications diverses, puisque chaque personne autiste a un point de vue différent, mais en tout cas, ce sont des explications qui viennent de personnes autistes et qui font une grande différence, qui permettent aux personnes non autistes de mieux comprendre ou de moins mal comprendre, ce qui permet de réduire ces difficultés. Alors certes, vous allez peut-être me dire, comme me disait une certaine dame qui n'est plus chez vous, que votre délégation consulte déjà pas mal d'associations d'autistes ou de personnes autistes individuelles, et c'est très bien. Nous, on n'a pas la prétention de détenir la seule vérité et que tout ce que pourraient dire tous les autres autistes serait mauvais. On pense simplement que, vous savez, dans l'autisme, on parle souvent de puzzle. Ben, c'est facile à comprendre. Si on suppose que toutes les autres personnes autistes vous apportent, par exemple, dans le meilleur des cas, 80% des pièces du puzzle, 80 pièces s'il y en a 100, nous, on peut en apporter d'autres qu'elles ne vous apportent pas. Et c'est bien logique. Nous, on n'apporte pas les 80 pièces. Si on en apporte 5 ou 10, ça peut être des pièces qui, subitement, permettent de comprendre, permettent de voir l'image du puzzle. Je pense que votre délégation n'est pas intéressée par ce qu'on propose depuis plusieurs années. Les tentatives de communication, les tentatives de dialogue qu'on essaye d'avoir avec votre délégation depuis environ 3 ans, elles sont caractérisées par une attitude minimaliste de la part de votre délégation, c'est-à-dire polie, qui ne nous rejette pas trop, enfin, qui nous rejette quand même beaucoup. Je dirais plutôt qui fait juste le minimum pour qu'on puisse pas dire qu'elle nous rejette. Pardon de le dire comme ça. Et malheureusement, je crains que ça ne devienne encore pire vu ce que vous m'avez écrit dans votre dernier courriel. Je suis encore une fois désolé de le dire comme ça, et comme je vous l'ai dit plusieurs fois, il faut surtout pas prendre les choses personnellement, sinon on s'en sort pas. Et ce que je veux dire, c'est que pour éviter ces problèmes, il est très utile de dialoguer pour mieux se comprendre, et donc de dialoguer avec des personnes autistes comme nous qui peuvent apporter des éléments, des pièces du puzzle supplémentaires, pour ne pas dire complémentaires, et que je trouve assez incompréhensible que ce soit refusé. L'autisme est une chose qui paraît énigmatique. Dans un certain sens, on peut dire que les pouvoirs publics français et autres ont une sorte de chance que certaines personnes autistes puissent leur apporter des éléments vraiment très utiles. Encore une fois, il n'y a pas que nous de l'Alliance Autiste. Et je ne vois vraiment pas pourquoi ça devrait être refusé, alors que beaucoup de gens, en fait, sont demandeurs. Ils sont demandeurs de ce genre d'informations, et vous les refusez. C'est incompréhensible. Après, évidemment, on peut se laisser aller à des suppositions concernant les mécanismes pas très nets qui existent, c'est-à-dire l'intervention de diverses personnes ou associations qui sont dans la mouvance et qui, en apparence, en superficie, qui défendent la cause, enfin qui disent qu'elles défendent la cause ou qu'elles veulent défendre la cause, qui disent qu'elles veulent défendre ou respecter la Convention des droits des personnes handicapées, ce genre de choses, mais qui, en réalité, défendent plutôt des intérêts plutôt personnels. En résumé, je ne vais pas développer ce point parce que quand on le fait, c'est automatiquement utilisé comme motif ou comme prétexte pour nous rejeter, mais c'est un problème. En tant qu'autiste, bon, on est plus ou moins naïf, mais enfin, au bout de 8 ans de militantisme avec la France, il y a quand même des choses qu'on a apprises sur les manipulations diverses, sur toutes sortes d'intérêts et d'entreprises tout à fait discutables, donc on ne peut pas faire semblant que ça n'existe pas. Voilà, ça c'était pour les choses abstraites. Maintenant, concernant les points plus concrets, écoutez, on a envoyé un fichier audio, des explications audio, à Monsieur Étienne Pau. Et ça fait plusieurs semaines, ce sont des explications très importantes, une synthèse. Disons que il serait logique de savoir s'il les a écoutées. Alors certes, il n'est pas obligé, certes, il a beaucoup de travail, vous aussi d'ailleurs, et certes, c'est pas forcément très agréable, hein, toutes ces tentatives de communication. Mais il n'en demeure pas moins qu'il, à mon avis, la moindre des choses, ça serait simplement de savoir s'il a écouté ou s'il a pas écouté. Ou s'il compte le faire faire et si oui, dans à peu près combien de temps? C'est quand même pas une demande abusive, il me semble. Et c'est pourquoi nous vous avons envoyé cette demande à plusieurs reprises et vous n'en avez pas tenu compte, vous n'avez pas mentionné. Vous avez mentionné la possibilité d'une réunion au mois de février. Enfin, c'est même pas sûr, ça c'est une interprétation. Vous avez dit que vous reviendriez vers nous au mois de février, j'arrive pas à imaginer que il faudrait attendre le mois de février pour avoir la réponse à une question aussi simple qui est est-ce que monsieur Étienne Pau a écouté ou non le message audio qui lui était destiné. Peut-être que c'est ça, peut-être qu'il faut attendre aussi longtemps pour une chose aussi basique. Attention, il faut pas qu'il y ait de malentendu. La question c'est est-ce qu'il a écouté ou pas. C'est ça qui est une chose basique. Le fait d'écouter, le temps que ça prend, quoi, l'attention qu'il faut, etc., ça c'est autre chose, c'est pas la même chose. Mais simplement savoir s'il a écouté ou pas. C'est une demande qui paraît assez simple. Comme cette demande, on l'a exprimée plusieurs fois par écrit et que elle a pas retenu votre attention, pour dire ça comme ça, on a fait un courriel dont le titre contenait le mot « quête ». Dans le sens de la quête du Graal, pour connaître enfin cette information, pour savoir si oui ou non il l'a écouté. En disant tout ça, je me dis que c'est quand même un peu surréaliste d'en arriver là, et je vous accuse pas, hein, on est bien dans les difficultés de communication entre autisme et non-autisme. Peut-être que nos questions, elles sont trop bizarres, peut-être qu'elles sont trop compliquées, peut-être qu'elles sont pas standards, peut-être qu'elles sont, je sais pas, noyées dans d'autres choses. Mais en tout cas, on est quand même, enfin, vous conviendrez, je l'espère, du fait que être obligé d'en arriver là, déjà à rien qu'envoyer un email intitulé quête de quelque chose dans l'espoir que ça déclenche comme une sorte de réaction, quoi, de déclic du lecteur qui se dise mais qu'est-ce que c'est que cette histoire, pourquoi ils écrivent quête, enfin même ça fonctionne pas. Maintenant j'en arrive à faire ce message qui je suis vraiment pas sûr qu'il sera écouté ou enfin qu'il sera écouté jusqu'au bout. C'est vraiment difficile, je ne sais pas ce qu'on peut faire, je vois pas ce qu'on peut faire. On a proposé plusieurs fois, assez souvent, on propose de faire des réunions en direct, ce qui permettrait d'éviter toutes ces histoires, pour pas dire toutes ces prises de tête, mais c'est ignoré. Donc, évidemment, on s'enfonce dans les choses compliquées qui finissent par fatiguer tout le monde et qui finissent par nous faire passer pour des gens aversifs, pénibles et tout ce qui s'ensuit, toute la litanie et les épithètes habituelles. Maintenant, sur une dernière chose, pour que ce soit pas trop long, dans votre dernier courriel, vous nous avez fait une liste de questions qui, dans un certain sens, sont légitimes. Vous nous avez demandé toutes sortes de détails sur les membres, notamment, de l'association Alliance Autiste. Et, bon, permettez-moi de trouver ça un peu bizarre, soi-disant vous accuser de quoi que ce soit, parce qu'il faut surtout pas se lancer dans des assumptions, enfin des suppositions qui se transforment vite en certitude ou en accusation. Il faut surtout pas tomber dans ce piège. Donc j'essaye de parler des différentes choses de manière la plus factuelle possible. Et dans cette liste, cette demande de renseignement, enfin c'est une demande de renseignement concernant l'association Alliance Autiste. C'est la première fois en 8 ans qu'on nous fait une telle demande, même en 9 ans qu'on nous fait une telle demande. Et on ne peut que trouver ça un peu étrange, et même si peut-être à 95% il n'y a pas besoin d'aller chercher quoi que ce soit derrière cette demande, c'est pas du 100%, et on est bien obligé de se demander si c'est pas une chose qui pourrait servir à préparer une sorte de mécanisme, quoi, du côté de votre délégation, pour nous exclure encore plus. Je suis désolé de le dire comme ça, mais enfin, c'est des pensées qui, à mon avis, qui sont enfin quand même assez légitimes. Pour parler plus précisément de cette demande d'information, il y a un point. Bon, je vous ai répondu par écrit en donnant un maximum d'informations, mais je vous ai dit qu'il y a un point qui paraît particulièrement étrange, pour le dire poliment, c'est que vous demandez une liste des membres. Alors peut-être que de votre point de vue, c'est tout à fait anodin, sans arrière-pensée ni quoi que ce soit. Mais ce que j'aimerais vous expliquer, et je l'ai pas fait par écrit, et c'est pour ça que je le fais maintenant, c'est que une liste de membres de personnes autistes, c'est-à-dire qui, du point de vue du système français, sont des personnes concernées par un diagnostic médical, comme on dit, déjà... ça pose une sorte de problème déontologique, pour pas dire légal. Mais ça encore, c'est pas le plus grand problème. Le plus gros problème, et peut-être que ça va vous paraître bizarre, c'est que on évite absolument de publier, de faire savoir qui sont les membres de l'association Alliance Autiste. Et c'est pas tellement dans un but de les protéger ou enfin pour c'est les premières choses qui viendraient à l'esprit. Non non, c'est par rapport à des mécanismes et des manœuvres. Je sais pas si je peux dire le mot vicieuse, parce que ça risquerait d'offenser, pas vous, mais ça pourrait offenser indirectement, donc je le dis pas. Mais en résumé, pour mieux comprendre, il y a déjà eu des cas dans le passé où, bizarrement, les membres importants de notre association se retrouvaient dans des situations telles qu'ils étaient obligés de nous quitter, parfois même avec précipitation, et de se retrouver dans les bras des associations malheureusement adverses, qui elles sont tout à fait dans des relations de sympathie avec les autorités françaises. Voilà, je suis obligé de parler de cette manière pour qu'on puisse surtout pas nous accuser de faire je ne sais quelle diffamation, parce que c'est une accusation qui tombe très rapidement. Donc ça fait deux arguments déjà. Bon, il y en a peut-être d'autres, mais en plus de ça, je vois pas tellement à quoi ça vous avancerait de savoir qui sont ces personnes. Comme je vous l'ai dit par ailleurs, il y en a pas beaucoup. Comme je vous l'ai dit aussi, en fait, les personnes qui comptent, c'est-à-dire qui sont actives et qui dont les dialogues, les échanges, les informations, etc. sont vraiment importants et utiles et font des différences, elles sont pas nécessairement dans l'association Alliance Autiste. C'est un sujet qui est assez complexe et en plus de ça, le nombre n'a aucune importance. On n'est pas une association qui défend ses adhérents comme je ne sais quelle association de consommateurs, par exemple, où là, le nombre ferait évidemment la différence, comme un syndicat ou un parti politique, je sais pas. Nous, on défend la cause des autistes d'une manière générale. On n'a pas besoin d'être très nombreux pour ça. C'est pas une question mathématique, c'est pas comme les votes au suffrage universel, ça n'a rien à voir avec ça. En plus de ça, peut-être que vous le savez, mais enfin, dans le monde de l'autisme et même du handicap, il y a, les associations, déjà il y en a très peu, les associations qui sont vraiment indépendantes, qui sont pas des sortes de faunées du lobby du médico-social, et dans ces rares associations, les personnes qui sont dedans, elles se comptent vraiment sur une main, hein. Les personnes actives qui sont dedans se comptent sur une main. Vous prenez même la plus importante association, que je vais pas nommer, mais enfin bon, dont la présidente est très connue et très active, en fait, bon, à part son adjoint, en quelque sorte, qui vit dans une partie péninsulaire de la France, je vois pas qu'il y a d'autres. Voilà, ça fait deux personnes. Il y en a peut-être d'autres, mais qui sont pas du tout actives. Donc, l'importance de ce qu'on fait, elle est pas liée à la quantité. Et si ça vous intéresse, vous pourrez lire l'observation générale de la CDPH de l'ONU, la Convention relative aux droits des personnes handicapées, et vous verrez qu'à aucun moment il est question d'une quantité de membres ou d'adhérents pour les organisations représentatives des personnes handicapées. Je pourrais faire une parenthèse sur le fait qu'il y a certaines associations, donc proches du pouvoir, ou que j'appelle des associations paragouvernementales, soit dit sans vouloir vous offenser, parce que c'est pas vous qui êtes responsable de cette problématique, qui, elles, ont bien compris comment il fallait faire et qui sont assez douées, assez fortes, assez habiles pour avoir des membres et pour avoir un fonctionnement plus conventionnel. Ça amène aussi à une autre problématique qui est en fait le principe même de la consultation et de la participation quand il s'agit d'autisme. Du fait que l'autisme et le fonctionnement collectif, c'est-à-dire associatif notamment, ce sont deux choses parfaitement antinomiques et indirectement obliger les autistes à s'organiser en collectif pour se défendre, c'est en quelque sorte c'est maltraitant. Et on voit bien que, à part quelques exceptions donc de personnes habiles qui donc sont moins représentatives évidemment puisqu'elles ont moins de difficultés autistiques, et de personnes qui sont plus ou moins autistes mais qui défendent aussi d'autres choses, questions de genre, de douleur de peau, de toutes sortes de choses, à part ces exemples, si vous considérez les associations purement d'enfants autistiques, d'autistes qui sont juste autistes et qui défendent juste l'autisme et les autistes, en fin de compte, il y en a très très peu. À ma connaissance, en France, au début, il y avait Satedi. Nous, d'ailleurs, Satedi qui était déjà dans le coma quand nous, on est arrivés en 2014. Ensuite, il y a eu nous. Ensuite, il y a eu le CCNAF, qui était une émanation de l'Alliance Autiste. C'est moi qui l'ai créé, le CCNAF, le 11 novembre 2014. Et après, celles qui se sont créées, je vais pas citer les noms, mais à l'exception d'une qui est effectivement autistique, avec des gens qui sont autistes dedans, mais qui est très habile, donc pas tellement représentative des personnes handicapées autistes. Les autres, c'est assez différent. Donc, bref, ce serait un sujet important, et puis je vais pas faire un monologue ici sur ce sujet. Tout ce que je peux vous dire pour conclure par rapport à cette problématique, c'est que, j'espère que c'est pas le cas, mais en imaginant qu'il y ait bien une sorte de procédure entre guillemets informelle pour nous éloigner encore plus, c'est-à-dire là on est vraiment poussé le plus loin possible au fond de la salle, quoi. Et là ça serait vraiment pour nous faire passer derrière, qu'on nous voit plus du tout, derrière la porte, quoi, de si c'est une salle de classe, donc dans le couloir. Je pense vraiment que c'est vraiment pas une bonne idée. C'est difficile d'en parler parce que si on en parle, ça risque d'être pris pour des propos à caractère menaçant. C'est compliqué. Tout ce qu'on peut dire ou faire, en fait, on retient uniquement les choses qui grattent, en quelque sorte, dans ce qu'on dit, les choses qui peuvent être prises pour de la diffamation, pour des offenses, pour je ne sais quoi. On retient que ça. Il n'y a pas beaucoup, enfin, franchement, ouais, il n'y a pas beaucoup d'efforts qui sont faits en matière d'accessibilité. D'ailleurs, dans le présent message, je parle pas tellement d'accessibilité pour les autistes, mais c'est quelque chose qui est en filigrane. Tous ces problèmes, s'il y avait véritablement une politique d'accessibilité pour les personnes autistes handicapées, avec des normes, des mesures concrètes d'application, etc., alors il y aurait déjà au sein de votre délégation, cette politique, elle serait intégrée. Votre délégation, elle serait imbibée de certains principes, de certaines choses à faire et à ne pas faire. Il y aurait des mécanismes qui ne se feraient plus. Il y aurait des réflexes d'offensiation personnelle, par exemple, qui ne se déclencheraient plus. Les personnes qui reçoivent les communications d'autistes ou d'associations d'autistes passeraient deux ou trois fois plus de temps à les lire et elles comprendraient. Parce que si on lit attentivement, on comprend quand même. Quand c'est nous, en tout cas, on comprend. Et ça irait beaucoup mieux. Ce qui est très grave, c'est que votre délégation, bah, visiblement, elle refuse d'entendre parler d'accessibilité pour les autistes. On vous en a parlé, on a écrit un nombre incalculable de fois. Les seules rares fois où votre délégation nous répond là-dessus, c'est pour dire que, en gros, oui, on s'en occupe, vous inquiétez pas, ou quelque chose comme ça. Ou oui, pire. Pire parfois, pardon de vous le dire comme ça, mais bon, parfois on reçoit des réponses qui disent, ah ben, faut voir... je ne sais quelle délégation à l'accessibilité, interministérielle à l'accessibilité, alors qu'on sait très bien qu'il s'occupe pas du tout d'autisme. Bon, de toute façon, ce besoin de politique d'accessibilité, de politique et de normes d'accessibilité en faveur des personnes autistes handicapées en France, bien évidemment, c'est pas uniquement pour des questions de difficultés ou de frictions entre une ou deux associations d'autistes et la délégation, votre délégation. C'est quelque chose de, évidemment, infiniment plus important, et quand je dis qu'il faudrait au moins une prise en compte, une sensibilisation dans vos délégations, et au moins une personne qui s'occupe de l'accessibilité pour les autistes dans vos délégations, bien évidemment, c'est pas que pour nous, pas que pour notre association. Il y a aussi autre chose que je voudrais rajouter par rapport à ça, c'est concernant la maison de l'autisme. Bon, alors, c'est facile de critiquer, moi je veux pas être négatif, tirer sur tout ce qui bouge, mais il y a certaines choses quand même qui chiffonne. C'est-à-dire que, bah, déjà, cette maison de l'autisme, on a un petit peu du mal à comprendre vraiment à quoi ça sert. Alors, ça sert certainement à quelque chose, quand même. Mais, dans les problèmes principaux, bah, c'est une question d'injustice, en fait. C'est une injustice. Et là, c'est une injustice en matière d'accessibilité, non pas propre au handicap autistique, mais en matière d'accessibilité en termes de distance. C'est-à-dire que ça peut éventuellement être utile à des personnes qui vivent dans une certaine région périphérique de Paris ou qui sont suffisamment hardies et qui ont le temps, etc., pour traverser Paris. En plus, pour des autistes, c'est pas facile. Mais sinon, enfin, je vois pas. On vit à une époque où la plupart des choses se font à distance maintenant, grâce à la pandémie notamment, si on peut dire ça comme ça. Donc aller construire une maison de l'autisme, enfin, ça paraît un petit peu étrange, pour le dire respectueusement. D'autres choses sont assez bizarres. Elle est, on peut pas vraiment la contacter. C'est difficile de discuter avec eux. Quand on y arrive, ils nous font des réponses, mais alors vraiment évasives, vraiment quoi. C'est un vrai dialogue de sourds. Et puis bon, il y a d'autres problèmes. Hein. Je vais pas vous parler du très très gros problème de la confusion entre la notion d'autisme et la notion de trouble. On vous a envoyé d'ailleurs un document assez long à ce sujet. Et je peux vous dire que la dame de l'OMS, avec qui dans un cadre différent, j'ai une réunion avec elle de 1h15, elle était d'accord avec ce qu'on lui a expliqué. Mais bon, ça c'est à suivre, on en reparlera. Donc pour en revenir à cette histoire de maison de l'autisme, ça coûte beaucoup d'argent, et je comprends pas comment, d'un côté, on dépense beaucoup d'argent dans des choses comme ça, bon, il n'y a pas que cette maison de l'autisme, mais aussi d'autres choses qui sont discutables, alors que il est évident qu'il faudrait qu'il y ait au moins une personne chargée de l'accessibilité pour les personnes autistes handicapées, et ou au moins une sorte de médiateur, de facilitateur, de ce que j'appelle référent autisme, au moins un qui serait théoriquement au sein de votre délégation, qui serait en quelque sorte une personne qui devrait résoudre un peu tous les problèmes quand on ne sait pas comment faire. Je sais que vous faites déjà un peu ça. Et merci pour ça. Sauf que, ben, pardon de vous le dire, mais enfin, les membres actuels de votre délégation, ils sont pas spécialistes de l'autisme. Je suis désolé, c'est pas des spécialistes de l'autisme. Donc, ils font ce qu'ils peuvent, mais en l'absence de certaines compétences spécifiques en matière de compréhension de l'autisme, souvent c'est un peu limité. Ils font ce qu'ils peuvent, et souvent ça marche. Quand il s'agit de débloquer des choses administratives, mais quand il s'agit de comprendre vraiment la problématique, les côtés autistiques quoi des problématiques, bah je vois bien que non, ils comprennent pas. Donc justement, il faudrait qu'il y ait au moins une ou deux personnes dans votre délégation. Je dis bien au moins parce qu'il faudrait qu'il y en ait dans chaque ministère, etc. Mais au moins dans votre délégation, qui est censé être l'organe sur lequel tout le reste des pouvoirs publics français peuvent compter pour quand ils ont un problème relatif à l'autisme. Et on voit très bien que il n'y a pas dans votre délégation une personne qui serait suffisamment formé quoi en matière d'autisme pour être en charge de l'accessibilité pour les autistes et de résoudre ou d'essayer de résoudre toutes sortes de problèmes en comprenant l'autisme. Donc si on nous dit qu'il n'y a pas les moyens pour payer une telle personne, là ça va pas du tout, parce que je sais pas combien ça coûte cette maison de l'autisme, mais enfin il me semble que avec l'argent de cette maison de l'autisme ça pourrait payer plusieurs personnes qui pourraient faire des choses vraiment utiles. De toute façon, la question de l'accessibilité pour les autistes, c'est quelque chose qui est général, qui devrait être appliqué partout dans tout le pays, dans tous les endroits, absolument tous les endroits, et pas que les endroits physiques d'ailleurs, mais également dans toutes les choses, les procédures, les formulaires, les tout, la communication, y compris les lettres, enfin tout, et c'est indispensable. En l'absence d'accessibilité pour les autistes, eh ben évidemment que nous les autistes on est exposés, on rencontre des obstacles en permanence, on se cogne le nez en permanence sur tout un tas de problèmes qui sont le résultat de l'absence d'accessibilité. Donc il y a de la souffrance, il y a de la maltraitance, les gens, les parents voient que leurs enfants souffrent, et dans leur esprit la seule solution ça serait de protéger leurs enfants dans des endroits où il n'y a pas ça. Et ces endroits ségrégés, il n'y a pas d'accessibilité dedans, c'est juste des endroits qui sont ségrégés, c'est tout. Et ça c'est un autre sujet, mais bon, c'est quelque chose qui est absolument très très mauvais. Et le problème, c'est que l'absence de politique et de normes d'accessibilité en France est, en définitive, la base qui explique les souffrances et la maltraitance généralisée, la maltraitance étatique, institutionnelle, sociale, sur les personnes autistes, c'est une maltraitance permanente. C'est cette absence d'accessibilité qui explique cela et qui donc sert de terreau à l'institutionnalisation. Parce que ça fait qu'il y a une sorte de pression qui fait que les parents, ils n'imaginent même pas une société qui puisse accepter leurs enfants autistes. Et donc, c'est eux-mêmes, les parents, qui demandent à ce qu'on leur prenne leurs enfants. Bah, c'est complètement abominable, franchement. En France, ou même dans d'autres pays, c'est inimaginable. Et pourtant, les pouvoirs publics, ça les dérange pas, tout ça. Et même, ils alimentent tout ça, y compris votre délégation. Donc voilà, je veux pas être trop dans le reproche, mais il y a vraiment beaucoup de problèmes, et je pense pas qu'un monologue soit suffisant, et puis de toute façon, c'est trop long, donc je pense pas que vous allez écouter jusque-là, donc autant arrêter tout de suite. Merci, respectueux, salut.